podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. On va dire tabarnak sûrement une ou deux fois. Mon nom est Tommy Godette et je suis capable de caster des spells. Je suis accompagné ce soir de Andy Jacques. Bonjour Andy.
Je te crois pas.
Oui. Allô? Je fais des lightning bolts puis des affaires de même. Là. On lance pas des sorts, on caste des spells.
Ah ouais, dans ce sens-là, oui.
C'est ça, c'est ça.
J'ai failli désinstaller Arena, mais je me suis retenu.
Voilà, un update. On a Jonathan Gauthier aussi qui est là.
Hey, salut tout le monde.
Tu peux nous parler de la trame sonore qu'on écoute en background?
Excellent. Fait qu'on va écouter The Call of Innsmouth par 8-Bit Fury. Je sais pas si le nom vous dit quoi. C'est un mélange de deux légendes. Deux courtes nouvelles littéraires de Lovecraft. Innsmouth, c'est le bout, c'est qu'il y a des Merfolk qui utilisent les Lichens pour brainwasher le monde. Puis, ben, Call of, c'est...
C'est une chanson de Metallica.
Exactement. Donc,
voilà. C'est ce qu'on écoute. Et le rire d'Emmanuel pour combler l'équipe, la fine équipe de ce soir. C'est toi qui nous as préparé le show aussi, j'ai l'impression.
Oh, oui, mon cher Tommy. Écoute, c'est la sortie... tant attendu de Lord of the Ring Tales of Middle-Earth, c'est le nom du set au complet. Ça prend deux petits points, évidemment, pour faire un nom de set qui a de l'allure, là, franchement. Mm-hmm. Hein? Mais oui, ça sort, les pre-releases sont en fin de semaine, la sortie officielle la semaine prochaine, ça va être sur Arena, ça va être jouable. C'est un set, on le rappelle, qui est straight to modern, et puis sur Arena, ça va être jouable seulement en alchimie et en historique. Pour une raison X. Ben parce que les autres options, c'était Standard ou Explorer, qui se veut être le penchant de Pioneer. Fait que ça ira pas là. Puis juste sur historique, c'était pas assez, ça a l'air. Fait que voilà.
Ben, j'imagine qu'on va pouvoir draft puis seal, là.
Oui, absolument. Absolument. Ça, j'ai bien hâte d'essayer ça. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Excellente perche que tu me tends, mon cher Andy. Oui, on va faire notre classique guide de draft. Donc, on va voir ensemble tous les archétypes qui sont suggérés par les dites cartes, les signposts uncommon et tout ça. C'est ce qu'on va voir. Ils ont sorti aujourd'hui, jour d'enregistrement, les détails, un peu plus de détails sur le Magicken Vegas qui va être en septembre cette année.
C'est pas Barcelone?
Barcelone, c'est le prochain cet été. Les billets sont déjà vendus pour ça. Tenez-vous-le pour dit. Mais le prochain, c'est à Vegas le 24, du 22 au 24 septembre. Les billets vont commencer à être en vente jeudi. Je crée bien. Si ça vous intéresse, donc vous pourrez aller voir ça là, sur Magic.gg. C'est là que ça se passe. Il va y avoir la grosse annonce, là, la grosse nouveauté. En plus là, du classique, là, c'est le championnat du monde qui est là. Les événements et tout ça. Et il va y avoir un gros open limited pour 100 000 $. 100 000 belles pièces à la clé pour le gagnant. Ouh. Il y a, je crois, 2000 personnes qui peuvent s'inscrire. Là, il y a 2000 places. Si vous voulez vous inscrire et tenter votre chance, montrer à tout le monde que c'est vous autres les meilleurs drafteurs. Alors voilà. Sinon, ben, on peut se lancer tout de suite là, dans le guide de draft parce que c'est toujours bien musclé. Alors voilà, on se lance. Lord of the Ring, une histoire légendaire, hein, bien sûr, parce qu'il y a dans tout le set, il y a 97 cartes avec le subtype Legendary. Pourquoi je commence avec ça? Vous allez voir, il y a beaucoup de cartes. C'est pas vraiment un archétype, mais il y a beaucoup de cartes un peu dans toutes les couleurs qui vont se soucier du fait que t'as des créatures légendaires surtout, ou des permanents légendaires. Et des fois, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bon? Est-ce que s'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, je vous le confirme. Il y en a 97, là, c'est réparti sur toutes sortes de types, artefacts, enchantements, des lands. Le premier instant, légendaire. Il y avait eu dans le dernier set de Dominaria, là, pas le dernier qui vient de sortir, là, mais celui qui était juste Dominaria tout court.
Dominaria, ouais.
2018, je pense.
C'est un très bon set, ça, en plus.
Oui, c'était un excellent set à drafter. Il y avait l'archétype historique dans lequel, et puis il y avait des legendary sorceries qui avaient intégré, qui ça te prenait une créature légendaire pour la caster, mais il n'y avait pas d'instant. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas de sorceries, mais il y a un instant, that's it. Donc, pour pouvoir caster Isildur's Fateful Strike, ça te prend une créature légendaire. C'est un instant, deux colorless, deux noirs, instant légendaire qui détruit target creature. Et si son contrôleur avait plus de 4 cartes en main, il exile des cartes de sa main jusqu'à ce qu'il arrive à 4. Un petit clin d'œil aux 4... doigt coupé de Sauron lorsque Isildur se défend et puis le défait de son anneau. Plus important que les 97 cartes dont je vous parlais, il y a vraiment, en tant que créature, il y en a 75. Fait qu'il y en a pas mal. Dont 40 qui sont à commune et en commune. Ça nous intéresse un peu plus dans le cas dont on parle là, pour les drafts et les sealed. Là. Il y a de l'option. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans toutes les couleurs. Il y a beaucoup de cartes légendaires, beaucoup de créatures légendaires, plusieurs versions de tous les personnages importants. Ils ont au moins deux versions, là, en partant de Myriadoc, Brandbook jusqu'à Aragorn. Ils ont deux, trois, quatre versions chaque. Donc voilà, et peut-être même plus que 40, parce qu'il y a une autre façon d'avoir une créature légendaire. On va se rappeler ensemble la mécanique de Ring Tempts You. Quand tu vois sur une carte que l'anneau te tente, disons-le comme ça, tu reçois une emblème la première fois que ça arrive, et cet emblème-là va comme monter de level. À chaque fois que tu te fais tenter par l'anneau, l'emblème va monter de level, et puis à chaque fois que tu te fais tenter, il va se passer les choses suivantes. Tu vas choisir un Ring Bearer, donc tu vas désigner une des créatures que tu contrôles qui va devenir ton Ring Bearer. Ça peut être la même créature qui était déjà ton Ring Bearer, qui redevient ton Ring Bearer, mais il y a quand même l'action va se faire. Et puis l'anneau te tente quand même si t'as pas de créature. Donc ton emblème va quand même monter de level, entre guillemets. Et puis les habilités s'accumulent. Donc on va voir ensemble les habilités, mais ça va être une après l'autre, et puis c'est pas exclusif, ils vont s'accumuler les unes après les autres, puis ils vont être associés à ton Ring Bearer qui va être la créature de ton choix. Chaque joueur a son propre anneau en tant que tel, là, son propre niveau anneau de tentation unique. I guess là, leur propre tentation à l'anneau unique. Donc, le premier level, la première fois que l'anneau te tente, ton Ring Bearer devient légendaire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une autre façon d'avoir encore plus de créatures légendaires. T'sais, dès que tu as un Ring Bearer, tu as une créature légendaire qui est sous ton contrôle. Et puis, elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont un power plus grand. Hein, c'est un petit peu évasif. Il disparaît avec l'anneau. Deuxième level en plus, qui se rajoute, lorsque ton Ring Bearer attaque, tu piges une carte et tu discartes une carte. Troisième niveau, lorsque ton Ring Bearer est bloqué par une créature, cette créature, le contrôleur de cette créature-là la sacrifie à la fin du combat. Une espèce de Dead Touch Weird. Et puis, le dernier level, lorsque le Ring Bearer fait du combat damage à un joueur, chaque adversaire perd 3 de vie. C'est important, là, c'est chaque adversaire, c'est pas cette personne-là que t'as, à qui tu as fait du combat damage. Là, fait qu'en multiplayer, ça peut être pertinent. Donc, tout ça s'accumule là, l'un après l'autre. C'est sûr que. On a parlé sur le show là, que la mécanique était sortie, qu'on trouvait ça drôle qu'il n'y avait pas de downside vraiment à ce que l'anneau te tente. Là, c'est comme dans le lore, on pourrait penser ça. Mais on a appris que ils ont fait pas mal de playtesting, puis il semblerait que dès qu'il y avait comme un downside, le monde ne le jouait pas. Le monde, le monde, ça, ça les intéressait pas. Donc voilà, donc on fait juste être vraiment tenté par l'anneau et son pouvoir, ce qui est aussi, ma foi, bien, bien correct. Là, on est des pas fins, finalement.
C'est, ouais, c'est comme si on était tous des Saurons, finalement.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça avantage Sauron, The Ring.
En même temps, ça peint un maudit beau target sur ta créature qui devient ton Ring Bearer. Fait que ça va un peu avec.
Ouais.
Donc, pour commencer, là, en sortant de March of the Machine, là, on va se le dire, le power level, il était dans le tapis. Avec le Seigneur des Anneaux, ça redescend un petit peu plus au ras des pâquerettes. Attendez-vous pas à un set là, rempli de grosses bombes les unes après les autres, puis des gros swings. Les cartes sont bonnes, ils ont l'air quand même assez bien balancées les unes avec les autres. Il y a plusieurs mécaniques là, qu'on va voir ensemble, puis ils se mélangent là, vraiment d'un archétype à l'autre, des espèces de mélanges avec les food, les tokens, en général, le sacrifice, le hammer. Les Legendary, là, tout ça va se mélanger pour faire les 10 archétypes qu'on est habitué. C'est un set assez classique là-dessus. C'est les 10 archétypes avec les paires de couleurs là, qui vont avoir chacune leur sign post uncommon. Alors, on va commencer tout de suite avec tiens, les blancs et bleus. C'est un archétype un peu mid-range. Il y a du flyer, mais c'est pas uniquement ça. Il y a quelques synergies qui vont se faire lorsque tu piges la deuxième carte d'un tour. On peut le voir d'ailleurs avec les deux signposts Gwaihir de Windlord, 4 colorless, un blanc, un bleu, une 4-4 Flying Vigilance, c'est un Bird Noble évidemment, le roi des aigles. Il coûte 2 colorless de moins à caster si tu as pigé 2 cartes ou plus ce tour-ci. Et puis ça, il donne vigilance aux autres oiseaux que tu contrôles. Et puis également le prince Imrail de Fair, un bleu et un blanc seulement pour une 2-2, un petit bear qui dit qu'à chaque fois que tu piges ta deuxième carte à chaque tour, tu fais un 1-1 White Human Soldier Creature Token. Donc ça te récompense pour aller chercher peut-être des cartes qui te permettent de piger un peu plus, ce qui est déjà une récompense en soi, fait qu'on aime ça. J'en ai sorti une, là, par exemple, le miroir de Galadriel, 2 colorless, un artefact légendaire qui coûte 5, tu le tapes, tu scry 1 et tu piges une carte, et puis ça te coûte 1 de moins pour l'activer pour chaque créature légendaire que tu contrôles.
Quand même.
Je pense que ça va être assez... Ouais,
c'est jouable.
Ça va être assez bon. Là, la dernière fois qu'on avait une carte un peu dans ce genre-là, c'était dans Dominaria United, où est-ce qu'il y avait le tome de Joda qui coûtait moins cher pour chaque type de basic land que tu avais. Tu ramassais souvent à le taper pour 1 ou 0. Juste piger une carte à chaque tour de plus, là, c'est c'est très efficace. Puis si en plus tu as un payoff pour piger une deuxième carte à ce tour-ci.
Tu fais que là, tu trigger,
Vous allez voir, les deux espèces de créatures là, vraiment de base là, sont pas si intéressantes que ça. Là, sont pas overpower là, à première vue. Mais c'est les deux créatures, il y en a une dans le blanc, une dans le bleu, qui vont un peu jouer sur l'archétype. Les Knights of Dol Amroth qui est dans le bleu, 3 colorless, un bleu pour une 3-3, et puis le Stalwart of Osgiliath dans le blanc pour 4 colorless, un blanc pour une 4-3, puis les deux vont faire le même effet. À chaque fois que tu piges ta deuxième carte chaque tour, tu mets +1/+1 counter dessus. La petite différence, le Stalwart of Osgiliath, et en plus, lorsqu'il rentre sur le battlefield, tu te fais tenter par l'anneau, fait que c'est pour ça qu'il coûte peut-être un petit peu plus cher. Fait que tu sais, ils n'ont pas de keyword, c'est juste des créatures qui deviennent de plus en plus grosses au fur et à mesure. Ça n'a jamais été les super bons, ce genre de bibitte-là, mais ça devient souvent une menace si tu la laisses...
C'est pas checké, là. Ouais.
Ouais, exactement. Fait que tenez-vous là pour dire, ce sont à commune, là, fait que vous allez en voir souvent. Sinon, la saga de Batsong, le chant du bain... 3 colorless, un bleu. Les deux premiers chapitres, tu piges 2 cartes et tu discartes une carte. Fait que ça trigger tes affaires. Puis le dernier chapitre, tu brasses autant de cartes que tu veux de ton graveyard dans ton library et tu rajoutes 2 mana bleus à ton mana pool. C'est pas pire, pas pire, pas en tout.
dans le bleu, là. C'est
pas ouais. Oh, ouais. Deux autres cartes là, que je vous inviterais à surveiller. Il y a le Landroval Horizon Witness, un autre Bird Noble. 4 colorless, un blanc. Flying 3-4. À chaque fois que tu attaques avec deux créatures ou plus que tu contrôles, tu donnes flying à target à creature qui n'a pas flying. Puis à noter que souvent, tu sais, avec les Pegasus ou ces créatures-là, faut qu'elles attaquent. Là, c'est vraiment juste quand t'attaques avec deux créatures.
Ouais, tu peux donner flying à un autre monstre qu'un des monstres qui attaque. Non.
Non, mais t'as pas besoin d'attaquer avec
le Burn Novel, par exemple.
Ouais.
C'est ça. Tu vas toujours juste donner flying à une créature sur les deux, mais c'est quand même, ça peut être intéressant. Sinon, le Ithilien Kingfisher, deux colorless, un bleu, pour une petite 2-1 flying, tel que tel, mais lorsqu'elle meurt, tu piges une carte. Fait que ça joue un peu dans les deux sens. Puis si on reste dans le bleu, mais qu'on va voir dans le noir, vous allez voir le bleu, noir et rouge, c'est surtout là où on va retrouver la mécanique à masse. Une mécanique qui revient de War of the Spark. Cette fois, c'est des armées de d'orques. Évidemment, plutôt qu'être les zombies recouverts de l'azotep. C'est un archétype un peu plus contrôle là, avec des counterspells, du removal. Et puis, tu gagnes un peu au fur et à mesure avec justement tes amas et tes armées. Les deux signposts, tu as Ringside, un colorless, un bleu, un noir, un sorcery, l'anneau te tente. Ensuite, tu cherches ton deck pour une carte qui partage une couleur avec une créature légendaire que tu contrôles, tu la révèles, tu la mets dans ta main et tu shuffle. C'est une espèce de tutor weird. Honnêtement, pas sûr. On verra à quel point ça peut être bon, mais souvent les tuteurs en limité... C'est toujours aussi bon que les cartes que tu as réussi à trouver. On verra.
C'est bien ben rare que tu as besoin d'une carte pour finir ton combo ou ces affaires-là. Fait que oui, effectivement.
C'est ça, tu sais.
Mais au moins, attente en même temps.
Trois pour cet effet-là. Je pense qu'on verra ce que ça va donner. Là, pour vrai, je suis très curieux de voir l'effet de la tentation de l'anneau sur les games. Là. Mais après ma base, je vous dirais que c'est pas la carte que tu vas vouloir pogner en premier. Là.
Non, définitivement pas un first pick. Il faut que tu aies un target pour ton star.
Absolument. Malt of Sauron, un petit peu mieux déjà. C'est la créature légendaire, un advisor humain. 3 colorless, un bleu, un noir pour une 3-4. Quand elle rentre sur le battlefield, target player mills 3 cartes. Et puis tu amasses Orc X, où X est le nombre de instant et sorcery cards dans le graveyard de ce joueur. Fait que tu peux te targeter toi-même si tu sais que tu as déjà pas mal de instant sorcery, ou peut-être ton adversaire si jamais il joue peut-être un archétype bleu-rouge, qui sait.
Probablement.
bien pensé, Andy. Donc, tu sais, c'est quand même intéressant. On se rappelle, les Hamas, tu vas toujours mettre tes +1/+1 counter sur le même sur la même créature. Là, c'est la même créature qui grossit. Là, ça
devient une armée d'orques.
Ça devient une armée d'orques pas large, mais grande.
J'ai une question niaise. Vas-y. J'ai une petite question niaiseuse. Les orques, là, ça va-tu être bon? L'armée d'orques, ça va-tu être bon dans des decks d'orques?
Ben oui. Ben ça va être mieux là.
Normal ou?
C'est un creature type, là, ça va compter comme un orque. Là.
Ok, c'est bon. Comme les zombies.
Avec les germes dans le temps, qui étaient aussi des tokens 0-0, qui, dans les Living Weapons, puis même l'armée aussi de zombies qu'il y avait dans War of the Spark. C'est comme thématique, parce que eux autres sont encore noirs, les orques aussi. Il n'y a pas comme de noir-rouge. J'ai juste remarqué ça, je voulais en parler.
C'est vrai que ça fait deux fois qu'on est dans le noir.
Oui, en fait, on pourra corriger plus tard, là, mais il me semble que j'ai vu quelque part qu'il y avait comme retcon, le fait que le token d'armée, c'est comme ils ont mis ensemble. Là, fait que si jamais tu joues à masse dans un deck avec des cartes de War of the Spark, c'est le même token qui est comme zombie.
Ok, fait que tu peux pas avoir une armée de zombies.
Zombie
ou
Orc Army, genre.
Ouais. Okay.
Ça amasse sur le même.
Ah, ok.
Sous toute réserve, là, il me semble.
Ouais, ouais.
Sinon, tu as des cartes classiques là, d'archétypes de control. Tu vois, tu sais, le counter spell classique là, pour un colorless, deux bleus, counter target spell. Mais avec un petit bonus, tu amasses Orc 1. Des cartes où est-ce que tu vas voir qu'il y a un petit peu de mill aussi dans le set. Fait que tu sais, dans un archétype de contrôle, souvent ça peut devenir ta wincon. On peut le voir avec Surrounded by Orcs. 3 colorless, un bleu. Amass Orcs 3. Et puis Target Player ensuite se mill de X cartes où X est le power de ton armée. Fait que c'est minimum 3. Mais ça fait une couple de tours que les orques, ça.
Ben, si t'as sorti l'autre en haut. Là,
de la Moria.
Si t'as sorti l'autre en haut que t'as mis les 3 cartes, là, il est rendu à 6.
Ouais, ça s'accumule. Ça va vite. Sinon, Gotmog, Morgul, Lieutenant, 3 colorless, un noir pour une 3-3. Quand tu rentres sur le battlefield, tu amasses 1. Et puis, les creature tokens que tu contrôles ont Dead Touch. Évidemment. Ton armée gang Dead Touch ou peut-être d'autres tokens qu'on verra dans d'autres archétypes ou bien le Torment of Gollum, un classique là, pour aussi là, le discard en contrôle, 3 colorless, un noir, tu regardes la main de ton adversaire, tu choisis une non-land card et puis l'autre se discarte et puis tu amasses deux orques. Il y avait un Toll of the Invasion dans War of the Spark qui faisait quelque chose d'assez semblable. Ça avait l'air de rien au début, mais finalement, c'était devenu assez joué là, quand le set avait avancé.
Il manque une ligne, hein? Il manque une ligne. Il devrait être écrit aussi « And make a game », un video game.
Non, fais pas ça. Fais pas ça. N'allez pas voir le
achetez-le pas
de Gollum. Ah, regardez-le juste pas. Vous allez faire des cauchemars. Sinon, ensuite, tant qu'à être dans le ramassage d'orques, les gros orques se ramassent dans l'archétype rouge et noir qui est plus aggro, qui est aussi sur le Hamas et peut-être un peu du sacrifice, tant qu'à avoir des tokens qui se font à chaque fois, aussi bien faire quelque chose avec. T'as Mahur, vous excuserez mon dark speech là, un peu rouillé, le Uruk-hai Captain, pour un noir, un rouge, 2-2, menace, un bon petit bear, mais à chaque fois que un ou plus un counter serait mis sur une armée, un gobelin ou un orc que tu contrôles, tu mets ce nombre de plus un counter plus un dessus, fait que t'en rajoutes un de plus, fait que quand tu amasses, dans le fond tu amasses une shot de plus. Ou Ugluk of the White End, 2 colorless, un noir, un rouge pour une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que tu contrôles meurt, tu mets un plus un counter sur Ugluk. Et si cette créature était un gobelin ou un orc, tu mets 2 plus un counter sur Ugluk à la place. Si tu vois les deux ensemble, ça fait une petite synergie.
Ben oui. Hein,
parce que Ugluk, évidemment, c'est un Orc Soldier. Fait que les Uruk-hai de l'Isengard.
Ils sont en train de se masser entre eux autres. Là.
Absolument. Ils se mettent des plus un counter. Une carte que j'ai mis dans cet archétype-là, mais qui honnêtement va pouvoir aller pas mal dans n'importe quel archétype là, qui cherche à amasser. C'est March from the Black Gate, un colorless, un noir, c'est un enchantement. Lorsqu'elle rentre sur le battlefield et à chaque fois que une armée que tu contrôles attaque, tu amasses un.
Wow!
Fait que tu te fais une armée qui grossit de plus en plus. Sinon, je l'ai mis ici, le Snarling Warg, 3 colorless, un noir pour une 3-4 menace qui gagne +1/+0 si tu contrôles un gobelin ou un orc. Ça peut être un bon beater là, pour 4-4, pour 4 mana. Le Book of Mazarbul, une saga pour 3, 2 colorless, un rouge. Premier chapitre, tu amasses 1. Deuxième chapitre, tu amasses 2. Puis les orcs qui compliquent pas trop la tête, là, 1-2. Puis après ça, attaque. Fait que chapitre 3, les créatures que tu contrôles ont +1/+0 et gagnent menace jusqu'à la fin du tour. Ça peut être bon pour te ramasser un bon petit board puis faire des bonnes attaques. Par exemple, avec le Goblin Fire Leaper, un petit Goblin Warrior 1-1 pour un colorless, un rouge, qui a Fire Breeding, 1 pour un colorless, un rouge, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et lorsqu'il meurt, il fait des dégâts équivalents à son power à target creature qu'un adversaire contrôle. Fait que tu peux le pomper.
Tapping, ouais.
Ça, ouais, le trader avec une autre créature péter son autre créature. Un bon petit gobelin comme on les aime.
Puis là, il meurt, fait que là, tu rajoutes des compteurs à l'autre en haut, ça finit plus.
Ça pistille.
Ça arrête plus.
Tiens, on continue d'attaquer. On va à un autre archétype aggro, le vert et le rouge. Mais là, ça va être plus dans les grosses créatures. On sera pas dépaysé dans cet archétype-là. Vert-rouge, on est habitué d'avoir des grosses bébites. Donc, on peut le voir ici, un des bons spells qu'on va pouvoir drafter en vert-rouge, là, Friendly Rivalry. Pour un rouge, un vert, un instant target creature que tu contrôles et jusqu'à une autre créature légendaire que tu contrôles font chacun des dommages équivalents à leur power à une créature que tu ne contrôles pas.
Oh, quand même.
Une espèce de team-up de... Bon, c'est un clin d'œil à Gimli et Legolas, là, mais c'est un bon bite spell, là, c'est du bon removal dans ces couleurs-là. Et puis Strider, Ranger of the North, une 4-4 pour 4, là, deux colorless, un rouge, un vert, qui a Landfall, qui n'est pas vraiment une mécanique du set, mais qui se retrouve sur quelques cartes. C'est le keyword de Landfall. Là, à chaque fois qu'un land rentre donc sur le battlefield sous ton contrôle, target creature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, si cette créature a un power de 4 ou plus, elle gagne first strike jusqu'à la fin du tour. C'est quand même pas pire. Sinon, là, les autres grosses bébites là, que je vous invite à surveiller. Éomer of the Riddermark, 4 colorless, 1 rouge pour une 5-4 haste. Et lorsque Éomer attaque, si tu contrôles une créature, dans le fond, si tu contrôles la créature qui a le plus gros power sur le battlefield, tu fais en plus un petit 1-1 White Human Soldier Creature Token.
Ah, mais il va être bon dans le rouge blanc, j'imagine.
Il va être bon dans le rouge blanc qui s'en vient à la fin, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois déjà que les archétypes mélangent beaucoup. Tu sais, il y a des cartes que j'aurais pu mettre dans un, dans l'autre. Puis évidemment, quand je fais ces guides-là, il y a plein de cartes que je mets pas parce qu'on serait ici encore dans 4 heures si on regardait toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup puis elles sont le fun. Le Oliphant, et j'en profite pour vous montrer un cycle qui le ramène entre guillemets là, de March of the Machine, les Land Cycling. Il y en avait dans chaque couleur pour 2 colorless cette fois-ci. Ils sont pour 1 colorless.
Ben oui, c'est ça, c'est cool, ouais.
Il y en a une dans chaque couleur. C'est des grosses. La plupart, c'est des créatures, mais il y en a un qui c'est un spell qui te fait piger des cartes là, dans le bleu. Ouais. Mais c'est toutes des. Honnêtement, c'est toujours des cartes que je vous invite à considérer. C'est bon, là, surtout en limité, parce que tu veux pas te retrouver mana short.
Pas de style mana.
Exactement. Puis au pire, si tu as les lands pour le casser, ben c'est une grosse bébite. La plupart sont quand même très raisonnables. Par exemple, Oliphant, là, on l'avait vu, il avait été révélé un peu plus tôt, là, mais pour 5 colorless, un rouge, une 5-4 trample. Quand elle attaque, une autre de tes créatures que tu contrôles gagne +2/+0 et trample jusqu'à la fin du tour. Ça le fait. Là. Tu donnes +2/+0 à Éomer. Ou à Éomer, puis qui gagne Trample, puis là en plus, tout le monde, puis là avec Strider, tout le monde a First Strike, puis let's go. L'autre grosse bébite, le War Beast of Gorgoroth, 4 colorless, un rouge pour une 5-4 déjà, et lorsque le War Beast ou une autre créature que tu contrôles avec Power 4 ou plus meurt, tu amasses 2.
Quand même.
Et un autre fight spell qui te récompense pour avoir des grosses bébites, le Ents Fury. Un colorless, un vert en sorcery speed. Par contre, pour tu mets +1/+1 counter sur une créature que tu contrôles si son power est de 4 ou plus. Ensuite, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et fight une créature que tu ne contrôles pas.
C'est comme ça.
Ouais. Sinon, le Quick Beam Upstart Ent, 4 colorless, 2 verts, là, ça, c'est une grosse bébite, une grosse 5-6 quand elle rentre sur le battlefield ou un autre Tree Folk sous ton contrôle, jusqu'à 2 créatures que tu contrôles. T'es pas obligé de les contrôler, mais jusqu'à 2 autres créatures, gang +2/+2 et gang Trample jusqu'à la fin du tour.
Le flavor text est très drôle.
Le flavor text est excellent.
Vas-y, tu l'as, Tommy, ouais.
It is only a nickname, of course. They have called me that ever since I said yes to an elder ant before he had finished his question.
C'est ça que ça s'appelle Quick Beam.
Le upstart ant, franchement. Il est trop pressé.
Yeah, mais ouais.
Bougaroum!
Sinon, dans le vert et le blanc, on a les Halflings pas mal qui se retrouvent dans ces couleurs-là. Et qu'est-ce que les Halflings font? Ils mangent. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec les food tokens. Il y en a pas mal. On le voit avec Butterbur, le innkeeper de Bree, qui n'est pas un Halfling, mais c'est un innkeeper. Une 3-3 pour 2 colorless, un vert, un blanc au début de ton end step. Si tu ne contrôles pas de food token, tu te fais un food token. Fait que c'est sûr que tu vas toujours avoir de la bouffe sous la main avec Butterbur. Sinon, tu as Frodo Baggins, en tout cas, cette version-là, pour un vert, un blanc, une 1-3. Lorsque Frodo ou une autre créature légendaire rentre sur le battlefield, le ring te tempt. Tant que Frodo est ton ring bearer, il doit être bloqué si possible. Donc c'est un petit Halfling Scout. Ses amis sont là également dans ces couleurs-là. Peregrine Took, de colorless, un vert, une 2-3. Si tu devais créer un token ou plus sous ton contrôle, tu fais ces tokens-là en plus d'un faux token.
C'est concept. Yep. C'est concept avec le innkeeper, justement. Là.
Oui, absolument. Et puis, tu peux sacrifier 3 food tokens pour piger une carte. Quand ta bouffe s'accumule, tu as également Myriadoc, Brandybuck qui vont bien ensemble, les deux. Fait que ça donne bien. Un colorless, un vert pour une 2-2. Halfling Citizen, à chaque fois qu'un ou plus Halfling que tu contrôles attaque un joueur, tu fais un food token. Les Mushroom Watchdogs qui surveillent les bons champignons. 2-2 pour un colorless, un vert. Tu peux sacrifier un food token pour mettre un plus un counter sur les chiens et ils gagnent vigilance jusqu'à la fin du tour. Tu peux seulement faire ça en Sorcery Speed. Ça va être pas pire. Ça va être pas pire. Si t'as assez de façons de créer du food, justement, si t'as toujours un food token par tour avec ton innkeeper.
Puis c'est pas limité en plus à un. Là. C'est pas comme tu peux en sacrifier 3 si tu veux, puis il est donné 3
contre. Ouais. Absolument. Là, fait que c'est une petite 2-2 qui peut devenir assez dangereuse rapidement. Sinon, il y a Bill, le poney, sacré Bill. 3 colorless, un blanc pour une 1-4 qui rentre sur le battlefield avec 2 food tokens. Et puis, tu peux sacrifier un food token pour, jusqu'à la fin du tour, donner à une créature que tu contrôles qu'elle assigne ses dommages avec son toughness plutôt que son power. Fait que si tu le fais avec Bill, ça devient une 4-4 là, techniquement. Sinon Rosie Cotton, celle-là on aurait pu la mettre, vous allez voir avec l'autre archétype là, ça se mélange pas mal. Rosie Cotton of South Lane, 2 colorless, 1 blanc, c'est une 1-1. Lorsqu'elle rentre sur le battlefield, tu fais un food token et lorsque tu crées un token, tu peux mettre un plus un counter sur target creature qui n'est pas Rosie. Donc c'est quand même un peu le downside là. Si on pouvait le mettre sur Rosie en plus, ça serait pas pire. Mais ça te récompense pour faire des food tokens et avoir d'autres créatures. Un petit dernier avant la carte.
Let's go, man.
Ouais. Les blancs et noirs vont être pas mal sur les créatures légendaires et les tokens, justement. Un petit peu plus de sacrifice qu'on a vu. On peut voir avec Denethor, le Ruling Steward, un colorless, un blanc, un noir pour une 2-4. Human Noble, déjà c'est dans un bon statline pour 3. Et au début de ton end step, si une créature sous ton contrôle était morte, ce tour-ci, tu fais un 1-1 White Human Soldier Creature Token. Et puis, tu peux payer 2 colorless pour sacrifier une autre créature. Et chaque adversaire perd 1 de vie. Et puis, toi, tu gagnes 1 de vie. C'est assez thématique avec le sacré Denethor. Et puis, bien, il y a plein de façons de faire justement des tokens. Si Denethor n'était pas assez, là, tu peux sacrifier déjà le token qu'il avait fait autour d'avant pour faire l'effet. Mais t'as toutes sortes de. Puis là, tenez-vous là pour dire, les White Spirit Creature Token, ils arrivent en retard. Hein, ils arrivent en retard à la bataille des plaines de Pelennor. Fait qu'ils rentrent sans jeu de taper. Tu vois le Shadow Summoning, un blanc, un noir. tu crées 2 tapped 1-1 White Spirit Creature Tokens avec Flying. À chaque fois que vous allez voir là, des Spirit Tokens, ils vont rentrer en jeu tapé. On peut le voir sur Out of the Grey Host, qui est une saga. 3 colorless, un noir. Toi et un target opponent se fait un food token. Deuxième chapitre, chaque adversaire perd 3 de vie et tu te fais un treasure token.
Concept.
Et puis, dernier chapitre, tu te fais 3 1-1 White Spirit Creature Token avec Flying qui rentre en jeu.
Taper. Puis c'est le concept avec la fille, justement, Rosie, ça fait, tu sais, 1, 2, ça fait 5 compteurs, plus 1, plus 5 que tu donnes en 3 tours, tu sais.
Absolument.
C'est le concept.
C'est pour ça, tu sais, les deux se mélangent un peu. D'une autre façon de créer des tokens de façon récurrente, le Mordor Trebuchet. Deux colorless, un noir pour une 1-4 Defender. À chaque fois que tu attaques avec un gobelin ou un orc, un ou plus, là, tu fais un 2-1 colorless Construct Artifact, le Ballistic Boulder qui a Flying, qui est en jeu tapé et qui attaque et tu le sacrifies. À la fin du combat, tu fais une espèce de boulet de canon. Ils ont pas mis juste une grosse tête là, décapitée. Là. Faut garder ça PG-13 un peu.
Un petit peu, ouais.
mais vous irez voir le dessin du token, il est quand même drôle. Sinon, vous avez Faramir, Field Commander, 3 colorless, 1 blanc pour un Human Soldier 3-3. Légendaire, bien sûr, au début de ton end step, si une créature est morte sous ton contrôle ce tour-ci, tu piges une carte. On aime ça. Et à chaque fois que l'anneau te tente, si tu choisis une créature autre que Faramir, comme ton Ring Bearer, tu te fais un White Human Soldier Creature Token. Vous allez voir, là, c'est la première carte qu'on voit un peu comme ça. Ben, il y avait Frodo qui te récompensait pour choisir Frodo en tant que ton Ring Bearer. Mais vous allez voir, il y a comme plusieurs cartes qui jouent un peu avec cette notion-là, comme choisis lui ou choisis pas lui.
Ben, c'est dans l'histoire aussi, le Paramé,
c'est dans l'histoire. C'est ça, ça va beaucoup avec le flavor de ces personnages.
J'imagine que Boromir, il doit avoir une interaction aussi similaire, là.
Oui, de mémoire, là, faudrait. Hein? Je l'ai pas dans les cartes, là. Je pense qu'il est
pas grave, là, mais
rare, là, mais oui, absolument. Sinon, une autre carte là, qui fit dans cet archétype-là et d'autres, le Shire Sheriff. Ouais, ben c'est que la base, la racine de Sheriff, semble-t-il, ça vient de Shire. Ouais. Vous irez voir ça, instruisez-vous.
Ça fitterait, mais ça.
Oui, absolument. Donc, c'est un colorless, un blanc pour une 2-2 vigilance. Lorsque le Shire Sheriff entre sur le battlefield, tu peux sacrifier un token, que ce soit un T-Spirit, un Food, whatever, selon dans quel archétype que t'es, peut-être une armée d'orques. Et puis, quand tu le fais, tu exiles target creature qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le Shire Sheriff quitte le battlefield. Un bon petit removal sur une créature. On aime ça. Tiens, on se prend une petite pause?
Yep.
Let's go, on va s'en aller vers la carte de la semaine. Présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Une petite tranche de beat à bonde. C'est quoi qui a gagné? J'ai très très hâte de voir.
La carte de la semaine, cette semaine, c'est le livre dans le livre. C'est l'histoire que Bilbo écrit sur son périple à la montagne de Smaug. C'est donc une saga, parce que c'est un peu comme ça qu'ils ont parce qu'il y a beaucoup de chants, d'histoires et de qui font les références au reste, parce que le 7 se concentre sur la guerre de l'anneau, là. Mais toutes les autres sphères et facettes de l'histoire du Seigneur des Anneaux et de la légende de Tolkien se retrouvent sur les sagas principalement. Et puis, c'est celle-ci, donc, There and Back Again, l'histoire de Bilbo à la montagne de Smaug. C'est donc une saga pour 3 colorless, 2 rouges, chapitre 1 jusqu'à une créature ne peut pas bloquer tant que tu contrôles There and Back Again et l'anneau te tente. Chapitre 2, tu cherches ton deck pour une montagne, tu la mets sur le battlefield et tu shuffle, donc tu arrives à la montagne. Et puis chapitre 3, Smaug se réveille, tu crées Smaug, qui est un Legendary 6-6 Red Dragon token avec Flying et Haste, et lorsque cette créature meurt, tu crées 14 Treasure Tokens. On le voit ici, et ben tu le concept certainement. Tu sais pourquoi 14?
C'est le nombre de nains?
C'est le nombre de nains plus Bilbo. Ils se séparent le trésor.
Ils sont 13 plus 1, ok, ouais, c'est ça.
Ils se séparent le trésor à 14. Donc, oui, ça fait effectivement 14 Treasure Tokens. Ça fait beaucoup de trésors, ça. Dans une game de Magic, là.
Surtout avec les affaires qui réagissent au token, là, ça.
Mm-hmm.
Beaucoup d'artefacts pour ton ATOG.
Mm. Entre autres. Effectivement. Ça coûte 5, là, ça arrive un peu tard dans le game, puis après ça te prend comme 2 tours à arriver à Smog.
Faut qu'il meure, là. Okay.
Mais je te dirais que ça risque d'être une carte que je prenne assez rapidement si je le trouve en draft. Là.
Ben oui.
Parce qu'une 6-6 flying.
Pour ça, c'est la rigueur, là. Puis ouais, les autres étaient bonnes aussi. Il y a un monstre qui peut pas voter, qui peut pas bloquer.
Ben, c'est la montagne qui a pas d'affaires, là.
Le gym, c'est un peu plate, là, mais c'est thématique, mettons.
Ta mère me tape aussi, fait que c'est cool.
Puis ta mère dans Battlefield, fait que si t'as déjà joué à Ellen, ça.
Oui.
C'est un landfall avec, mettons, le avec Ranger. Là.
Avec Rider.
Et voilà, il y a plein d'affaires.
Oh, oui, absolument. Absolument. Non, je pense que c'est une bonne carte. Là, c'est pas une bombe, mais comme dans le power level du set, je pense que ça va en être une bonne. Alors voilà, c'était ma suggestion pour la carte de cette semaine.
J'aime bien ça, voir le dessin de Smog. Fait que, bon, on va retourner au draft guide, mais avant, merci Emmanuel pour la carte de la semaine. Puis beat à bone. Allez, let's go aussi.
Ah ouais, regarde comment ça se passe, vos archétypes, là.
Ben, moi, le noir rouge, j'aime ça parce que je cherchais des cartes pour aider mon deck de gobelins noir rouge.
Ah!
Mmh. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux, puis il y a plein d'oiseaux dans le bleu-blanc, fait que peut-être que le deck d'oiseaux.
Le fameux deck d'oiseaux. On va peut-être trouver quelque chose pour l'upgrader.
Moi, je suis fatigué, fait que je vais juste y aller avec le Stampy.
J'ai hâte de voir le rouge-blanc. Moi, il y a de quoi là-dedans.
Je l'ai gardé pour la fin. On y va donc avec le noir et le vert qui est beaucoup de food et de sacrifice. Vous allez voir des cartes comme le Old Man Willow. Deux colorless, un noir et un vert pour un tree folk dont le power est équivalent au nombre de land que tu contrôles.
Oui.
Rien de moins.
Et à chaque fois qu'il attaque, tu peux sacrifier une autre créature ou un token. Et lorsque tu le fais, target creature qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour.
Quand même.
Je pense que si je l'ouvre, ça risque de m'orienter vers le vert et le noir.
Hey, c'est solide, là. Absolument. En limité, ça va devenir tout le temps 6-6-7-7.
Exactement. Puis c'est du removal
Facile,
là, si t'as des façons de créer des petits 1-1 ou ben des faux tokens souvent, là, ça va être facile de le trigger puis de juste enlever les bébites ou de rendre les blocs un peu awkward pour ton adversaire. Sinon, t'as le Rise of the Witch King, une sorcery pour deux colorless, un noir, un vert. Chaque joueur se sacrifie une créature. Et si tu sacrifies une créature de cette façon, tu peux ramener un autre permanent de ton graveyard sur le battlefield. C'est assez pas pire pour 4.
Du Control puis un Raise Dead sur une même carte. Là.
Mm-hmm. Yep. Donc déjà on peut voir.
Tu sais, OP, tu peux ramener ta propre carte sur le battlefield. Là, fait que...
Ouais. Faudrait voir le
stat. Another permanent card.
Ah, ça le dit another. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, d'habitude, ces cartes-là, ils disent another. Là.
Ouais, mon erreur.
Mais la créature est dans le graveyard, effectivement, au moment où l'effet se résout. Là. Sinon, d'autres trucs comme ça, tu vas avoir le Cirithon Ghoul Patrol, 4 colorless, un noir, un soldat orc, 4-5. Tu peux payer un colorless, le taper, sacrifier une autre créature pour piger une carte et créer un food token. Le Voracious Fell Beast.
Il est cool.
Ouais, c'est un bon curve topper, je pense, là, 4 colorless, 2 noirs pour une 4-4 flying. Quand elle rentre sur le battlefield, chaque adversaire se sacrifie d'une créature et tu te fais un food token pour chaque créature qui a été sacrifiée de cette façon.
Ben, c'est fun avec en multi, là, mais.
Absolument, mais même en duel, là, tu sais. À moins qu'il y ait ben des créatures qui traînent de l'autre bord, là, mais déjà juste lui faire sacrifier une créature à ton adversaire, c'est toujours.
Un 4-4 flying qui tue une créature, qui pète une créature de l'adversaire.
Qui donne un cold token.
Voilà, je pense que ça le vaut là, pour 6.
Il y a du value.
Ouais. Sinon, le Shortcut to Mushrooms, un enchantement pour un colorless, un vert, quand tu rentres sur le battlefield, l'anneau te tente. Et puis, au début de ton end step, s'il y avait un permanent que tu contrôles qui avait quitté le battlefield, que ce soit un food token, une créature que tu avais sacrifiée ou juste envoyé en combat, tu mets +1/+1 counter sur target creature que tu contrôles. Fait que c'est du. Yep, c'est du récurrent. J'ai mis le Lembas ici, mais je le trouve assez intéressant pour pas mal d'archétypes. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un artefact food, bien sûr, pour 2 colorless. Quand il rentre sur le battlefield, scry 1 et puis tu piges une carte. Tu peux payer 2, le sacrifier, c'est l'habilité de food, là. C'est l'habilité de food classique. Et lorsqu'il est mis sur dans le graveyard à partir du battlefield, tu le shuffle dans ton library. Tu sais,
quand même, hein?
C'est de la bouffe infinie, là, tu sais, c'est le Lembas des elfes.
C'est une solution de genre jamais te top decker.
Non, malheureusement, parce que quand tu rentres en jeu, tu dois piger une carte.
Ah oui, t'as raison.
Fait que si c'est la dernière carte de ton deck, t'as joué, t'as sacrifié, puis t'as mis sur le top.
Ils ont pensé à ça, hein?
Ouais. Parce que c'est aussi la première affaire que je me suis dit, puis j'ai fait « Ah non, attends un petit peu. » Mais si t'en as 2, par exemple.
Aha!
Puis ben, du mana. Mais oui, tu sais, en fin de game, ça peut être drôle. Tu fais juste manger ton pain de ton bord pendant que l'autre se deck.
Je peux voir ça un jour.
Si ça arrive, vous nous écrirez.
Ah ouais.
Ouais, sinon, on s'en va dans ton archétype préféré, Tommy. Dans le bleu, le vert, les elfes. Sont-tu beaux, hein?
Ils doivent être super forts, hein?
Ben oui. Oui, il y a beaucoup des elfes, mais aussi beaucoup d'interactions avec la mécanique de scrying. Vous allez voir, il y a pas mal de cartes qui disent scry ou qui vont faire un effet lorsque tu scry. On le voit tout de suite avec les deux créatures légendaires là, uncommon, Arwen Undomiel, un vert, un bleu pour une 2-2, elf noble. À chaque fois que tu scry, tu mets +1/+1 counter sur target creature.
Et
puis, tu peux, c'est un bon mana sync également parce que pour 4 colorless, un vert, un bleu, tu scry 2. Fait que tu sais, late game, là, c'est une bonne façon de passer ton mana à la fin du tour de l'autre. Legolas, Counter of Kills. Vous allez voir, il y a également Gimli, Counter of Kills. Un beau petit clin d'œil. 2 colorless, un vert, un bleu, une 2-3 avec Reach. Évidemment, quand t'as un arc, t'as Reach, il paraît, dans le monde de Magic.
C'est automatique.
Oui. Presque. À chaque fois que tu scry, si Legolas Counter of Kills était tapé, tu l'untap. Tu peux faire ça seulement une fois chaque tour. Et lorsqu'une créature que ton adversaire contrôle meurt, tu mets +1/+1 counter sur Legolas.
Rien de moins.
Sinon, là, tu peux voir le Willow Wind. Je pense que ça va être une bonne façon de trigger tes scry. Puis, tu sais, un peu comme l'archétype de piger la deuxième carte à chaque tour. Scry en tant que tel, c'est déjà bon. On aime ça. Ça aide à filter
contrôler,
tes cartes.
Ouais.
Ouais, à contrôler le top de ton deck pour trouver les bonnes cartes puis les cartes dont tu as besoin. Donc, en soi, c'est bon. Donc, le Willow Wind, un élémental 3-4 pour 4 colorless, un bleu flying. Et puis, quand tu rentres sur le battlefield, tu scry 2-2. Les Chainsmith Elves, 2 colorless, un vert pour une 3-2. À chaque fois que tu scry, tu mets +1/+1 counter dessus. Par contre, ça trigger seulement une fois chaque tour. T'as Elrond, qui est le Lord of Rivendell, hein, 3-2 pour 2 colorless, un bleu. À chaque fois, lorsque lui ou une autre créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu scry 1. C'est la deuxième fois que ça arrive. Ce tour-ci, l'anneau te tente. Ça, c'est excellent.
Yep.
C'est un scryer sur chacune de tes créatures. Là. Mm-hmm. C'est très bon. Un petit aura avec flash, un petit combat trick qui reste en jeu, les Gift of Strands, les cheveux de Galadriel. 3 colorless, un vert, flash, ancient creature. Quand elle rentre sur le battlefield, tu scry de 2 et puis tu donnes +3/+3 à target creature, à la créature enchantée.
Rien de moins.
Ben, parce qu'il y avait 3 cheveux.
Hey, c'est fou. C'est fou parce que, tu sais, mettons, t'as l'autre, là, t'as Arwen, pis là, ça fait comme un +4/+4, pis si t'as Legolas, ça fait.
Oui, absolument. Il y a toutes sortes d'affaires, là, qui
Il y a aussi,
je l'ai pas mis, là, mais il y a aussi un elfe qui, quand il attaque, tu scry. Quand il t'attaque avec lui ou avec un plus elfe, tu scry, pis quand tu scry, là, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour.
Pourquoi pas?
Fait que t'as vraiment toutes sortes d'affaires là, qui se passent, là, Scry, tu fais des affaires. Fait que c'est
sure. Une petite valeur, ce soit des elfes. Là, la nef bleue, c'est en train de déborder. Il y a des... On perd le contrôle. Il y a des affaires, je suis vraiment pas content.
Ou tu pourrais t'adapter aussi, tu sais. Donner plus tolérant.
On s'en reparle. Dans le bleu et le rouge, effectivement, c'est un petit peu instant sorceries. Il y a tout un tas d'affaires qui se passent. Pas mal de tentations également. Là. Tu vois, là, il y a Bilbo, le retired burglar, pour un colorless, un bleu, un rouge pour un 3. Lorsqu'elle rentre ou quitte le battlefield, l'anneau te tente. Et lorsque Bilbo fait du combat damage à un joueur, tu fais un treasure token. Parce qu'il a ramassé toutes sortes son trésor de smog. La sanction de Gandalf pour un colorless, un bleu, un rouge, c'est un sorcery qui fait X de dommages à target creature où X est le nombre de instant ou sorcery cards qui sont dans ton graveyard. Les dommages en excédent sont faits dans la face de son contrôleur à la place. C'est un sorcery avec Trample. On aime ça. Puis là, j'ai sorti surtout les payoffs de Sorcery puis d'Instant, plus que juste comme les Sorcery puis les Instant, parce que sont assez classiques. Là, c'est le Shock puis le Lightning Bolt pour 2 puis Counterspell. Là, on a déjà vu. Les trucs un peu que tu vas pouvoir peut-être viser, là, t'as Gandalf, l'ami de la comté, 3 colorless, un bleu pour une 2-4 Avatar Wizard qui a Flash. Une petite surprise, et puis tu peux caster des sorcery spells comme s'il y avait flash, fait que tout a instant. À chaque fois que l'anneau te tente, si tu choisis une créature autre que Gandalf, comme ton Rig Bearer, tu piges une carte. On parlait de ces petites mécaniques-là.
Ah, c'est ça.
Ouais. T'as le Pelargir Survivor qui t'aide à caster des sorcery de instant speed. C'est un colorless, un bleu pour un 3. Tu rajoutes un mana de n'importe quelle couleur, mais tu peux seulement le faire pour des instant ou des sorcery. Et puis late game, tu peux l'activer 5 colorless, un bleu, le taper pour mêler de 3
target
player. On peut peut-être ramener ça dans l'archétype bleu-noir contrôle.
Oui, il y avait du 1000 contrôle tantôt.
Mm-hmm.
Hey, ça va vite là, en limité quand tu peux faire 1000 de 3 cartes par tour.
Ben, surtout l'autre qui fait que, comme X, millage de X. Là. C'est par rapport à l'armée. Ouais.
Non, moi, ce que j'aime, c'est que tu peux t'auto-miller pour upgrader le dégât de ton sorcery. Puis aller
booster le dégât
Gandalf Sanction.
Puis il y a de la réanimation assez le fun tantôt qu'on a regardé dans Dimir. Fait que,
Un autre qui aurait pu être dans le Hamas de bleu-noir, c'est Saruman le Blanc, qui est bleu. 4 colorless, un bleu. C'est une 4-4 Avatar Wizard avec Ward 2. Et à chaque fois que tu castes ton deuxième spell chaque tour, tu amasses 2.
Et voilà.
Sinon, des trucs qui vont peut-être accélérer le clock en castant tes instants et tes sorceries. Deux que j'aime bien. Il y en a un qui est un enchantement, le Fairy Inscription, 2 colorless, un rouge. Quand tu rentres en jeu, l'anneau te tente et à chaque fois que tu castes un instant ou un sorcery, ça fait 2 dégâts à chaque adversaire.
Oh!
Hey, Tommy, lis le flavor text, s'il te plaît.
Ashnag Durbatuluk, Ashnazg, Gimpatul, Ashnazg, Trakatuluk, Ag, Burze, Michi, Kirimpatul.
Merci. Je pense que c'est la phrase connue sur l'anneau, là.
Oui, c'est un anneau pour les
gouverner, un anneau, ouais, c'est ça.
en dark speech, là, on s'excuse à tous nos éditeurs orques dont les oreilles viennent de s'y.
Ouais.
Sinon, t'as un peu le même effet, mais sur une créature, le Erebor Flamesmith, un colorless, un rouge, une 2-1 Dwarf Artificer. À chaque fois que tu casses un instant ou un sorcery, le Erebor Flamesmith fait un dégât à chaque adversaire. Si t'en as un ou deux là, de ces affaires-là, ça peut aller vite.
Là, après ça, juste des affaires pour piger des cartes.
Cartes ou des burn spells, puis t'es en
bête. Tu fais un storm.
Wow, garde ton storm en dehors de mon draft guide, toi, là. et puis on arrive au dernier.
Shadowfax!
C'est le rouge et blanc. C'est humain, aggro, un peu d'équipement, go wide. fonce dans le tas, là, vraiment, là, vous allez voir. Shadowfax, le seigneur des chevaux, pas des anneaux, là, des chevaux. Trois colorless, un rouge, un blanc pour un cheval, 4-4, légendaire, qui donne haste à tous les chevaux que tu contrôles, donc Bill, le poney, par exemple.
C'est vrai.
À chaque fois que Shadowfax attaque, tu peux mettre une créature card avec un power moindre de ta main sur le battlefield, taper et en train d'attaquer, comme tu dis. Callis. Et est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier avec la carte?
Avec le cheval? Oui, il y a des beaux cheveux.
Je pense pas que c'est ça, là, mais...
Non, c'est pas sur le art. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une carte avec un reminder text de qu'est-ce que ça veut dire haste.
Oh, ah, oh.
Et c'est qu'est-ce weird. Que Gandalf dit à Shadowfax?
Je sais pas.
Montre-nous le meaning de haste.
Ah, c'est cute. Oh.
Fait qu'il y a littéralement le reminder text de haste sur la carte. Je trouve que c'est un beau petit clin d'œil, là, parce que c'est vrai que, tu sais, ils disent plus là, qu'est-ce que ça veut dire haste sur les cartes. Mais là, spécifiquement, ils l'ont ramené parce que c'est la
Easter egg de
Gandalf. Un petit clin d'œil. Sinon, l'autre signpost, t'as Théoden, le roi du Rohan. Un colorless, un rouge, un blanc pour une 2-3. Human Noble, à chaque fois que Théoden ou un autre humain rentre sur le battlefield sous ton contrôle, Target Creature gagne Double Strike jusqu'à la fin du tour. Fait que let's go, on fonce.
C'est wack, tu mets Shadowfax, puis là tu peux mettre Théoden, parce que là, tu sais, comme il attaque, tu mets Théoden, puis là Théoden il arrive, il est en train d'attaquer, fait que tu peux mettre, mettons, Shadowfax Double Strike. Yay! Mm-hmm. Succès!
Ouais. ça va être.
En surprise!
Ça va être un archétype, le fun, je pense. C'est toujours le fun aggro en draft là, quand c'est viable. Sinon, tu sais, on a parlé d'équipement, il y en a quelques-uns, dont le Dunedain Blade, un colorless, un blanc. Pour une ça donne plus 2 plus 1 à la créature équipée. Ça coûte 1 à équiper si c'est un humain ou 3 en général. Fait que c'est assez cheap là, dans un archétype où est-ce que t'as surtout des humains. T'as le Esquire of the King, lorsque tu réussis à te builder un plus gros board, peut-être en fin de game, puis tes petites bébites, c'est pas assez juste pour attaquer, faut que tu y ailles large. T'as le Esquire of the King, un blanc pour une 1-1 que tu peux taper en payant 4 colorless, un blanc, et toutes les créatures que tu contrôles gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça te coûte 2 colorless de moins à activer si tu contrôles une créature légendaire. Des anthem effects de même sur des bébites, ça c'est toujours intéressant. Sinon, t'as Eowyn, hein, la dame du Rohan, 2 colorless, un blanc. Human Noble 2-4. Au début de ton combat, une créature que tu contrôles, Target Creature, gagne à ton choix, soit First Strike ou Vigilance jusqu'à la fin du tour. Et puis si la créature était équipée, elle gagne First Strike et Vigilance jusqu'à la fin du tour. Les Equip Abilities que tu contrôles coûtent 1 colorless de moins à activer.
Donc 0 pour l'épée en haut.
Sur un
c'est pour un humain.
Oui, effectivement. C'est thématique. Des spells pour la gang. Now for Rat, now for Rune. 3 colorless, 1 blanc, la charge sur le Black Gate. Sorcery, tu mets +1/+1 counter sur chaque créature que tu contrôles et elle gagne vigilance jusqu'à la fin du tour. Et l'anneau te tente pour mettre un petit peu de sel sur un pump spell. Déjà, quand même, pas pire là, quand tu as un bon board. Sinon, des petites créatures là, rapido, t'as le Haradrim Spearmaster, 2-3 reach dans le rouge, on aime ça. 2 colorless, un rouge pour ça. Et puis, au début de ton combat, tu donnes +1/+0 à une autre créature que tu contrôles. Et Rising of the Day, qui est un enchantement qui donne haste à toutes tes créatures. Et les créatures légendaires que tu contrôles ont +1/+0. Ça peut être correct. Là, je pense pas que ça va être brisé, mais si tu as un archétype assez aggro, c'est à considérer. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet cette semaine.
Ben, merci beaucoup. Je pense que c'était straight to the point.
Paf!
Ça va être le terrain basique pour cette semaine. Nous autres, on est supposé faire un draft vendredi, hein, c'est ça, Jonathan?
Oui. J'ai commencé à magasiner la boîte et les boosters. Puis comme disait Emmanuel,
Il y a beaucoup de spéculations sur le prix des produits, surtout les Commander. Puis, ouais. En tout cas, le monde court après les Boxstoppers puis les reprints. Fait que, en tout cas, mais on va avoir une boîte puis on va faire un draft vendredi.
C'est ça, va être cool. Voilà, si c'est autre chose que Lord of the Ring parce que ça coûte trop cher à cause de spéculation, tant qu'on pognera pas l'anneau aussi, sûrement, là, il y a quelqu'un à un moment donné qui va le pogner, puis là, il va dire c'est moi, puis là.
Je pense que le dernier, baisser, je pense ouais. que le dernier bid est rendu à 2 millions. Par une boutique en Espagne, là, 2 millions d'euros.
Tu veux donner 2 millions pour avoir le ring
si
de...
Si vous trouvez l'anneau, il te fly-in pour aller le porter en main propre.
S'ils font de l'argent en Espagne avec du Magic. Ben écoute, merci beaucoup Emmanuel pour ça.
Moi je vais aller en pre-release sûrement le vendredi.
Merci Andy d'être passé nous voir.
Puis, ça fait un grand plaisir.
Ben oui, puis merci. Jonathan, tu peux nous rappeler encore c'est quoi la trame sonore?
The Call of Innsmouth par 8-Bit Fury. Puis vous pouvez checker ça sur Bandcamp. Il vend ses albums vraiment pas cher. Puis il en donne... des fois, il les vend pour 0$. Fait que profitez-en.
Fait que je pense que tout est dit là-dessus. Mon nom, c'est Tommy Godette. On remercie Martin à la, au montage, Bond pour le beat. Puis les autres personnes qui se sentent qu'on s'est responsable ou visé ou considéré.
Salut, Jason.
Ben oui. Puis voilà, on est disponible sur Spotify. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manasco possible.
De la famille H2O Web Media.